France Inter. Il paraît qu'un et un font deux, ou un dans un couple, qui dit mieux? Et si moi je dis que ça fait trois, un plus un, trois, il y a toi, il y a moi, et il y a l'histoire qu'on a tissée, le chemin qu'on a emprunté, qui a ses creux, qui a ses bosses, l'inconnu et l'inattendu, parfois très loin des rêves de gosse, il vit sa vie propre, ce chemin, il ne peut pas compter pour rien. Il paraît qu'il n'y en a que deux sexes, deux genres et deux moitiés, comme on a deux jambes, il paraît, et que c'est cette binarité qui nous permettra d'avancer, qui fait de nous, oui, ce qu'on est, on appelle ça le genre humain. Mais du coup, des genres, il y en a trois. Il paraît que lorsque l'on est, un plus un, c'est mathématique, qu'on a des données biologiques, du sûr, du solide, du carré, pour nous classer, pour nous ranger, sinon c'est le bordel. Il paraît, t'es F ou M et c'est plié. Regarde, c'est là, sur tes papiers. Ah non, tu vas pas contester, puisqu'on te dit que c'est marqué. Ok, mais si moi je voulais changer?
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Bonsoir, bienvenue Delphine, bienvenue Floé, bienvenue à La Reine Garçon, dont on entend ici le titre d'ouverture, différente. La Reine Garçon, plus qu'un album, c'est un projet, un récit, un plaidoyer, un rêve. Vous diriez quoi l'une et l'autre?
Floé? Je pense qu'on peut dire que c'est un projet qui nous accompagne, voilà, et que c'est peut-être un reflet effectivement de l'évolution qu'a connue la vie de notre couple. Mmh. Et puisque j'ai changé de genre officiellement en 2021-2022, mmh. et qu'on a ressenti à ce moment-là le besoin de l'exprimer dans notre art, mmh. et c'est ainsi qu'est née La Reine Garçon.
Et c'est aussi un refuge où on se sent bien, ouais. on se sent protégé et on n'a peur de rien. Donc...
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle, chantait Brel ou Gréco, couple sur scène et à la ville. Vous êtes aussi parents, ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Votre tempête, vous venez de la traverser, donc vous l'évoquiez, Floé. La Reine Garçon raconte ça aussi avec un mélange d'espoir, de joie et de mélancolie. Est-ce que vous diriez que le ciel, aujourd'hui, 5 ans après les débuts officiels de cette transition, que ce ciel reste changeant ou bien que ça y est, vous avez posé le pied sur le rivage?
Je pense qu'on le voit quand même maintenant, en fait, à l'horizon, après peut-être un temps où on ne savait pas bien où est-ce qu'on était. Mais on n'est pas encore arrivé.
Delphine, vous diriez quoi de votre météo?
Moi, je me rends moins compte que Floé. Après, je trouve que le parcours...
Pour votre couple, pour votre famille?
Oui, je trouve que le parcours est riche et intéressant et plein de vie. Donc, le voyage vaut le coup.
Votre balade vous a conduit, en tout cas, jusque dans ce studio. Je vais vous demander de prendre ce miroir... et de vous regarder qui se jette à l'eau en premier. Et paf, le miroir fourgué.
C'est une question un peu difficile pour une femme trans. Voilà. Ouais. Logiquement, ce qui me plaît dans ce que je vois, c'est que c'est le changement. Voilà. Mm-hmm. J'aime plutôt ma bouche, je pense, et mon nez. Voilà. Et pour le reste, je ne sais pas.
Tu as des magnifiques cheveux roux.
Oui,
j'interviens un peu.
Bouclé, oui, vous avez raison, Delphine.
Merci. Voilà, mais non, ce qui me plaît, c'est le changement. Voilà,
ouais.
le fait de me rapprocher un petit peu d'un point qui me plaise.
Delphine?
Alors.
Comment dire? Il est terrible en ce moment. Oui, ouais.
Voilà, je connais ce visage. J'aime bien mes yeux. Je suis très contente de mes yeux. D'ailleurs, mes enfants
clairs, bleus,
me disent souvent qu'ils auraient bien aimé avoir les mêmes, alors qu'ils ont les yeux marrons, tous les deux. Voilà. Et puis, rien
cheveux
de spécial.
Courts, cheveux lunettes courts, pour retenir les cheveux, c'est pas ça. Sur vos yeux, contrairement à Floé.
Pour l'instant, je n'ai rien à lire, donc...
ok. Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre reflet ?
Ça va, même si je vois qu'il change, je vois des signes de vieillesse que j'ai peut-être un peu de mal des fois à accepter. Enfin, voilà, ça change.
On en est là. Après, ils sont quand même légers. Enfin, vous les voyez, mais oui. C'est pas non plus.
Merci. Ça va, je me sens bien.
Ok, bah alors c'est parti. C'est votre histoire que vous allez nous raconter ce soir, à l'une, à l'autre, à vous deux. Elle commence très exactement. Ah ben non. Date de naissance, non, renseigné. Je vous ai demandé pourquoi, Floé, et vous m'avez répondu. Quand on fait de la musique, il n'y a qu'une saison, c'est l'été, et il n'y a qu'un âge, c'est l'adolescence.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Pierre et le loup, c'est chez vous ça, Delphine ? C'était comment chez vous quand
c'était
vous étiez
chez
petite ?
Chez ma grand-mère en fait. Ouais. J'allais tous les week-ends chez ma grand-mère et on écoutait Pierre et le loup, on continue.
Ça dit quoi de l'ambiance chez votre grand-mère ou dans votre famille ?
Bah, c'était un petit appartement à Pantin, très modeste, mais c'était chouette. On était avec mon frère et ma grand-mère et on s'amusait bien.
L'enfance, c'est le bac à sable en bas de l'immeuble, c'est le grand couloir chez vos parents avec cette moquette beige, c'est l'odeur des plats préparés par votre mère, c'est celle de la pipe de votre père. On est sur un décor assez classique.
Assez classique, ouais.
Voire traditionnel, vous diriez ?
Oui, plutôt traditionnel. Rien d'exceptionnel en tout cas.
Qui étaient vos parents ?
Qui sont mes parents ? Ils sont encore là. Hein, donc.
Oui, je disais plutôt dans vos yeux de petite fille.
Bah, on vivait beaucoup avec ma mère parce que mon père travaillait en fait la semaine et il partait. Donc ouais. On ne voyait que le week-end. Et comme le week-end on était chez ma grand-mère, on se voyait finalement assez peu.
Quel genre d'homme et de femme ils étaient quand vous étiez petite ?
Mon père avait une forte dominance patriarcale. Enfin, ouais. il imposait vraiment ce schéma-là dans la famille.
C'est-à-dire, ça passait par quoi ?
Bah, ça passait par ne rien faire à table, ne pas faire la cuisine, ne pas débarrasser, ouais. Être dans le journal, enfin être dans le fauteuil en train de lire le journal pendant ouais. que sa femme, qui ne travaillait pas, s'occupe du reste
okay.
et des enfants, mm-hmm. pendant que lui travaille et gagne de l'argent, en fait. Mais
Et votre mère face à ça ? Est-ce qu'elle a remis à un moment ou à un autre ce modèle-là en
tout.
Question ?
En non fait, elle vient d'un milieu très... Enfin, de paysans,
ouais.
Dans le Jura. Son père était maréchal ferrant, enfin, une famille très nombreuse et tout ça. Elle arrivait à Paris, mon père était parisien, et elle s'est un petit peu dit, tiens, c'est ma chance, je vais enfin vivre à Paris,
okay.
mais je vais accepter ce modèle de femme au foyer.
Ouais. Vous avez un grand frère, c'est ça ?
J'ai un frère qui a un an de plus que
ouais.
moi.
Ouais. Est-ce que vous diriez que vous avez reçu tous les deux une éducation différente, du coup ?
Absolument. Mon frère, c'était le modèle. Il fallait qu'il soit parfait, en fait, qu'il ouais. travaille bien, qu'il ait des résultats pour plus tard travailler, gagner de l'argent. Et moi, en fait, je faisais ce que je voulais parce qu'en fait, on s'en fichait un
ça,
peu.
Ça, c'est pas mal.
Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié ça.
Ouais. Ça vous donnait.
J'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire, donc j'avais pas de pression, quoi.
Vous, Floé, vous êtes enfant unique, né à peu près à la même époque que Delphine, vous avez grandi à peu près en région parisienne aussi. Et avec vous, l'enfance a le son de la télévision et d'une fontaine électrique, l'odeur de la bougie et le goût du papier aluminium. Pourquoi le papier alu ?
Eh ben, en fait, je vivais seul avec ma mère, voilà, qui était un petit peu dans un monde bon, parallèle. Voilà, elle était mystique d'une certaine façon et elle avait des moments de doute aussi sur sa place un peu dans le monde. Et donc, il m'arrivait de me faire à manger seul. Et puis, j'avais 6 ans, je ne savais pas faire la vaisselle. Donc, je gardais la poêle sale. Et puis, à chaque omelette, je remettais une couche, une feuille à l'eau.
Ah, pas con.
Et voilà, comme ça, ouais. ça m'évitait de faire la vaisselle. Et bon, ça avait un petit goût d'alu quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon.
Enfant, Delphine, à part quelques bêtises avec votre grand frère, vous êtes plutôt du genre discrète. Vous, Floé, carrément invisible, du moins vous y employez. Pourquoi ?
Alors, je pense que j'ai compris 20 ou 30 ans après, voilà, mais c'est vrai que j'ai eu, quand j'étais jeune, enfant et adolescente, du mal à m'intégrer au groupe, enfin, mmh. à tout ce qui ressemblait à un groupe de gens, que ce soit pour faire du sport, que ce soit dans une entreprise, que ce soit. Parce qu'en fait, j'étais. Je pense, avec le recul, pas à l'aise avec les mecs mmh. et pas recevable dans un groupe de filles, quoi. Voilà. Donc, du coup, sans groupe. Voilà.
Alors vous grandissez, Chloé, votre doudou Minette, vous commencez à le mettre un peu de côté. À la télé, vous êtes fascinée par les excentricités d'Elton John. Il dit qu'il porte des dessous féminins à Michel Drucker. Alors ça, oui, vous êtes scotché. Et puis c'est Jamie Lee Curtis et ses cheveux courts, ses bras musclés. Ces femmes-là, vous les adorez. La plus belle d'entre elles, l'icône, c'est elle, Annie Lennox, s'il vous plaît.
Elle est toujours très belle.
Ouais, je sais pas trop, donc là, je vois pas trop de photos d'elle. Mais...
Vous vouliez être Annie Lennox ?
Oui, il y a eu effectivement, je pense. Après coup, en remontant le temps, je me rends compte que j'ai un petit peu, comment dire, mon switché dans mon identification, probablement au début de collège, vers 10-12 ans.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là, j'ai eu envie d'être cette chanteuse.
Qu'est-ce qui vous plaisait tant chez elle ?
Alors, je pense que, comme j'étais seul, j'étais très immergé dans mes disques, voilà. Donc, donc à 6 ans, 8 ans, j'ai eu vraiment une approche traditionnelle, c'est-à-dire, Call the Beatles. Et puis, à un moment, ça a effectivement quoi switcher, c'est-à-dire j'ai gardé cette envie de musique, mais avec, en fait, bon, pour mettre quoi des mots là-dessus, un début de dysphorie de genre, voilà, et qui s'est exprimé. Je me souviens d'une revue à l'époque où j'ai vu cet article sur cette chanteuse. C'était au milieu des années en fait 80, et elle était incroyablement belle, et c'était un modèle, quoi. Je veux dire, elle était c'est elle qui avait le contrôle de ce groupe, quoi. Je veux dire. C'était, elle était forte.
Elle n'était pas si féminine que ça non plus. Enfin, pardon, j'interviens.
Mais évidemment, sentez-vous.
Quand même, non, c'était une femme. Elle chantait quoi sur scène. Elle était en fait mon soutien-gorge, quoi. C'était elle la chef, quoi. Ouais.
Vous, Delphine, l'idée c'était de devenir médecin pour sauver des vies, sans doute parce que des malades qui risquent pas de mourir, c'était pas assez, c'était trop facile. Dans votre panthéon, à vous, on trouve Steinbeck, Les raisins de la colère, on trouve Leonard Cohen, Songs of Love and Hate, et puis celui qui, comme personne, a su jouer avec les codes, les genres, les normes. Écoutez. Il vous faisait quel effet, David Bowie ?
Bon, il me fascinait, je le trouvais tellement beau, tellement charismatique.
Pour le coup, lui, très androgyne.
Très androgyne, ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui pouvait vous séduire ?
Oui, complètement. Ouais. Après, il avait plusieurs visages et tout ça, mais je le trouvais toujours beau dans toutes ses tenues et tous ses...
Oui, c'est effectivement cette capacité de transformation qui était fascinante aussi. Ouais. Adolescente, quel était votre rapport avec votre féminité ? Parce que c'est quand même le moment où tout ça se marque un peu, se différencie. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ?
On me prenait souvent pour un garçon parce que j'avais les cheveux courts et j'aimais bien avoir les cheveux courts. Et souvent, j'avais acheté des grandes boucles d'oreilles fuchsia qui faisaient 20 cm de long et je les mettais pour qu'on arrête de me dire monsieur. Bon. Je travaillais dans la boutique de ma tante et j'étais vendeuse, quoi. Et tout le monde me disait bonjour monsieur à chaque fois. Donc je me disais, mais non, je suis ado, mais je suis quand même une fille. Donc j'avais acheté ces boucles d'oreilles et ça n'a rien changé. Les gens continuent à m'appeler
c'est
monsieur.
Fou, ouais.
C'est fou.
Ouais. Ouais. Et quels étaient justement vos rapports avec les garçons ?
J'aimais bien les garçons.
Ouais.
Donc, j'ai eu pas mal d'aventures dans mon adolescence. Mais plutôt des garçons un peu en marge.
Ouais.
Un
toujours.
Peu différents. Ouais, qui étaient toujours un peu soit complètement dépressifs, soit très artistes, toi.
Vous, Fleur, comment est-ce que vous avez vécu cette période où tout à coup le corps se dessine, où tout à coup le désir pointe le bout de son nez, où parfois il y a du plaisir à la clé, enfin...
C'était assez trouble, mais moi j'étais pas du tout attiré par les mecs. Je pense que quitte à faire un tri dans les mecs, j'allais vers les mecs les plus sensibles, quoi. C'était juste ça. Mais après, jusqu'à l'âge adulte, j'ai été... je sais pas quoi quel serait le terme, mais presque à quoi, c'est-à-dire
abstinent.
Oui, enfin, ouais. Sans très très prudente quoi. C'est-à-dire, ouais. Je pense que je sentais que j'avais pas tous les éléments pour entamer une relation.
Vous, Delphine, vous êtes plutôt du genre stable, hein, constante, un rock dans vos relations amoureuses. Vous avez 17 ans quand vous vous rencontrez toutes les deux. Mmh. C'était une évidence.
Ah, oui, assez vite. Enfin, on s'est rencontrés par la musique, en fait. On a commencé
ensemble avant de sortir ensemble, comme on disait. Voilà. Et donc, on répétait dans une cave. Et puis, à partir de là, on est parti en tournée. Et puis, un soir, on s'est embrassés. Voilà.
Assez vite, le cadre est posé. Il y aura pour vous deux la musique, il y aura les concerts, il y aura les tournées. Puis Gustin, votre fils, longtemps après, hein, vous avez la trentaine quand vous devenez parent. 5 ans plus tard, voici Mélia. Alors ça y est, vous êtes lancée. Vashti Bunyan, Here Before, c'est votre choix à toutes les deux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette chanson? Pourquoi elle vous parle?
Alors, c'est une chanteuse anglaise des années 60. Notre musique, elle est inspirée à la base de la musique folk des années 60, donc voilà, bon, 70. Folk, parce que bah, c'est juste, ça raconte des histoires simples, en fait. De gens, et ça s'adresse aux gens. Donc là, c'est une chanson où elle parle de ses enfants.
Et vous, Delphine, vous diriez quoi de cette chanson-là?
Bah, c'est une chanson qui parle aussi de la maternité, de le fait d'élever ses enfants.
Comment est-ce que vous l'avez vécu, votre maternité?
Bah, plutôt bien. J'étais contente d'avoir des enfants. C'était important
pour
moi.
C'était naturel pour vous?
Tout à fait.
Ouais. Ouais. Les choses sont venues simplement?
Oui, je voulais vraiment des enfants. J'avais envie de...
Chloé.
Pour moi, c'était une inquiétude, bien sûr, parce que même si c'était quelques années avant, j'avais vraiment pas du tout confiance dans ma capacité de transmettre quelque chose de, je dirais, mon positif. Pour transmettre, il faut déjà...
savoir un peu qui on est.
Oui, exactement. Quoi. Ouais. Pour être prof, il faut déjà avoir un peu appris, quoi, sinon c'est ridicule. Quoi. Voilà, j'avais peur d'être incapable.
En même temps, ça a été une période très heureuse dans notre vie aussi. Enfin, j'en ai vraiment un souvenir de toi qui rayonne.
Oui, bien sûr.
En te disant...
Une fois que les enfants sont là, c'est merveilleux. C'est le moment d'avant qui est difficile. Ouais.
Donc voilà, donc parents, on le disait, mais l'édifice de l'intérieur commence à se fissurer en vous, surtout. Chloé, quelque chose ne va pas, quelque chose de non identifié. C'est étrange, mais il y a comme un endroit où vous n'existez pas.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Pour lancer. c'est juste le son quand tu lèves le doigt.
C'est l'index.
C'est l'index.
Et si on veut lancer un disque, on fait un cercle avec le doigt. Et ouais, c'est les choses que j'aime le plus faire dans ma vie. Peut-être les choses dont je suis le plus fière. Non, mais vraiment en plus. Je n'existais pas. Nouvel extrait de votre album, de votre projet La Reine Garçon. C'est vous qui l'avez écrite, cette chanson, Chloé. Même après avoir rencontré Delphine, même après la naissance de vos enfants, même après avoir réussi à vivre de votre musique, vous aviez donc le sentiment de ne pas exister.
Oui, j'ai eu vraiment ce moment où j'ai plongé, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une impasse, tout simplement. Donc, de façon assez simple, j'ai ressenti de plus en plus une frustration que je n'arrivais pas à... Je ne trouvais pas la cause de tout ça, donc je ne dormais plus. J'étais, je pense, insupportable. Peut-être tu peux nous confirmer ça.
Delphine. Vous étiez aux premières loges. Comment était Chloé à ce moment-là?
Elle buvait, elle pouvait devenir un peu violente et irritable assez facilement, donc c'était compliqué.
Voilà, puis donc au bout de quelques années, sur une pente, je dirais, mon descendant, tu m'as demandé d'aller voir un médecin, voilà.
Et oui, moi, j'ai posé un ultimatum, d'être
un ultimatum,
vous lui avez dit quoi?
Qu'il fallait qu'elle consulte quelqu'un, sinon ça ne pouvait pas continuer comme ça, quoi. Ouais. On peut pas rester...
Je pense qu'à ce stade, moi, je pensais que c'était notre couple qui était usé, quoi, d'une certaine façon. Voilà, c'est une histoire assez, je dirais, bon, classique, voilà. Et donc, je suis allé consulter une jeune femme, en fait, mon sexologue. Voilà.
Pourquoi une sexologue plus qu'une psy classique?
Oui, je pensais qu'on avait un problème dans notre relation de couple et donc dans nos rapports, en fait. Voilà. Parce que, bien sûr, à ce stade, moi, j'avais... du mal à garder cette logique de rapport genré... mec-fille, puisqu'en fait j'étais une fille en moi sans trop le savoir, voilà, donc c'était compliqué, comme on peut le deviner. Je me suis dit, c'est la bonne personne, quoi. Il va y avoir une écoute, parce que sinon ça va être vraiment... Bon, c'est pas simple quand même de... J'avais jamais consulté à ce moment-là, j'avais... Bon, voilà. et au bout de quelques minutes, en lui racontant mes rêves, mes peurs, voilà, bon, mes fantasmes, elle m'a dit, mais... est-ce que vous savez ce que c'est la dysphorie de genre? J'ai dit oui, je sais ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est votre cas, quoi. Voilà. Si vous voulez, je peux vous orienter vers une association si vous souhaitez, voilà, comment dire, transitionner. J'ai dit mais non, j'ai des enfants, vous êtes folle. Et j'ai payé, je me suis enfui. Ouais. Voilà, j'ai pleuré un bon coup.
Ouais.
Et ça m'a fait énormément de bien, voilà, le fait qu'une personne me le dise. Et bizarrement, à ce stade, je n'avais pas relié les points, quoi, du dessin. Donc j'avais des petits points et je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que quand j'étais seul, et seulement quand j'étais seul, je mettais une robe, voilà. Mais seulement quand j'étais seul. Donc je pensais que c'était une sorte de perversion, fétichiste, comme... tant de gens en ont, je pense, voilà, sans qu'on le sache, que c'était pas très important. Voilà. Ce qui n'allait pas, c'était notre couple. Quoi. Alors, ce qui n'allait pas, c'était moi. Mais voilà, et donc ça m'a fait en fait énormément de bien. Voilà.
Ça vous a fait relier les points du dessin, comme vous dites joliment. Vous avez donc écrit un mail à Delphine pour lui dire. Delphine, comment est-ce que vous avez reçu ce mail?
Je ne savais pas très bien quoi en faire, en fait. J'ai eu mal à me dire, c'est la réalité.
Vous avez été surprise. Vous n'avez pas tout de suite relié les points du dessin?
Non, pas du tout, en fait.
Okay.
J'ai pris du temps pour réfléchir.
Ouais.
On en a parlé, on a beaucoup échangé à ce moment-là, quand même.
Alors, tu ne t'en doutais pas, même si dans notre couple, tu avais quand même... mais peut-être sans t'en rendre compte, une place dominante. Mais bon, c'est une autre question qui est... Voilà,
mais et donc une place qu'on dirait masculine, c'est-à-dire le chef de famille, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, c'était vous.
Exactement, ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce risque, parce que c'est beaucoup de couples explosent à ce moment-là. Voilà, et moi,
quelque part, ça n'allait pas changer les rôles, ça n'allait pas changer l'équilibre.
Exactement, j'étais certaine que passer le choc... voilà, ça avait une chance de finalement de nous aider.
Et puis vous vous aimez, et puis ensemble vous créez, et puis il y a les enfants. Alors oui, c'est l'inconnu, c'est la grande inconnue, mais main dans la main, vous plongez.
En fait, que Boy George dans les années 80, mais je le trouve génial dans ce morceau. C'est lui qui chante le refrain, mais bon, je sais pas si on y arrivera. Mais
non, malheureusement, on n'y arrivera pas parce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. C'est la chanson qui a accompagné votre transition, Chloé. Elles sont multiples, hein, les transitions. Il y en a autant que d'individus. À quoi ressemblait la vôtre?
Très lente, c'est-à-dire que suite à cette visite, donc je t'ai fait ce mail, on a discuté pendant des semaines, voire des mois, et au bout d'un certain temps, j'ai senti que tu acceptais ce changement. Mm-hmm. Ensuite, il a resté quand même à discuter la façon dont ce changement allait se faire, voilà, et au début, c'était pas évident. Tu m'as dit, ok, bon, c'est vrai que voilà, bon, la pilosité, ce serait bien de d'épiler ses poils sur le visage. C'est vrai que après la vraie discussion, c'était sur aussi, est-ce que oui ou non j'entamais un traitement voilà, hormonal puisque là il y a d'autres changements, tous les effets vont secondaires.
Est-ce que vous pouvez expliquer lesquels pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas?
Alors, le premier changement le plus évident, il est sur la sensibilité et sur l'humeur. Mais ça, c'est un changement que je voulais. C'est-à-dire que j'ai changé en fait, de vision sur le monde qui m'entoure. Voilà. J'ai commencé à pleurer à la fin des films. Voilà. On est peu de choses. Voilà.
Tu pleures beaucoup plus que moi.
Tout ça avec un tube de produits chimiques. Voilà. Mais j'ai compris en fait, aussi, et ça c'est vraiment un grand luxe, de pouvoir avoir eu les deux équilibres hormonaux en fait dans le même corps, voilà quoi, successivement comprendre un petit peu la barrière, quoi, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont différentes dans le ressenti, et après il y a les effets en fait bon secondaire, il y a les seins. Voilà, donc ça c'était notre discussion, parce qu'au début tu avais pas très envie de ça. Le problème, c'est que si on prend des hormones pour se sentir bien, on a des
forcément, il y a des changements physiques qui apparaissent d'ailleurs assez rapidement, moins d'un an plus tard. C'est le moment où vous commencez à affronter le monde extérieur, maquillé, bijouté, parfois en robe et en talons. Comment est-ce que ça, vous l'avez vécu, Delphine? C'est pour ça que vous avez quitté Paris?
Oui, on s'est dit qu'on allait partir parce qu'on connaissait trop de gens autour de nous et que ça allait nous bloquer, en fait. Enfin,
c'était pas la raison officiel, c'est qu'on manquait de place. On était quatre à ce moment-là, et on n'avait pas les moyens pour s'agrandir comme tant de Parisiens, voilà, bon, Parisiennes. Mais
il y avait aussi la question du regard de
l'autre. Bien sûr, j'aurais jamais pu...
Enfin, en tout cas, ça s'est accompagné. Enfin, on a changé d'endroit pour vivre, et ça a facilité la transition, bien évidemment.
Et est-ce que vous, voyant la personne qui partage votre vie, en plus depuis tant de temps, la voyant changer physiquement, comment est-ce que ça, vous l'avez vécu?
Les premiers changements, j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal. Enfin, j'avais... Finalement, c'est peut-être moi qui t'ai poussée à prendre des hormones pour que ce soit plus naturel, parce que je sentais que c'était un peu tu voulais mettre peut-être des prothèses à la place des seins. Ça, moi, ça me gênait. Je voulais quelque chose de plus... Enfin, qui soit plus en toi, quoi. Quelque chose qui soit, que tu puisses porter directement.
Oui, ça va très vite, hein, quand tu prends... Ouais.
Donc, voilà, au tout début, c'était un peu...
De 10 jours, t'as déjà des grattements. Enfin, c'est pas... Ouais. Oui, c'est presque immédiat, en fait. Enfin, le corps humain est très intelligent. Enfin,
et puis, ouais. Petit à petit, je me suis habituée, j'ai apprécié. Et voilà, ça s'est fait sans trop de... Enfin, ça se fait petit à petit, quoi. C'est une transition aussi, de mon côté.
Ouais. Et puis, bien sûr, à un moment ou à un autre, il faudra bien parler aux enfants. Camille Ducellier vous a suivi pour ce documentaire Puissance 2, sorti en même temps que votre album. On va vous entendre là, en forêt, avec Mélia.
Pourquoi t'as pas le droit d'avoir des faux ongles? Parce que je trouve que ça abîme vraiment les ongles. Et donc, j'ai pas envie que ça t'abîme les ongles.
Mais mamie, elle m'avait dit qu'elle en avait eu et ça ne l'avait pas...
D'accord. Et personnellement, moi, je trouve pas ça super joli en plus. Donc, je te le dis.
Moi, je trouve ça joli.
C'est subjectif. Mais c'est sûr, ça bousille les ongles.
Flo a essayé de mettre des faux ongles à un moment donné. Mais ça t'a vraiment.
J'ai mis plus de temps à les retirer qu'à les garder en place, tu vois. J'avais trouvé une colle ultra efficace, tellement efficace que. Pour les retirer, j'ai dû faire tremper mes mains dans un bac de produits chimiques pendant...
4 heures.
Pendant 4 heures, un soir, là, c'était horrible.
Quoi. Et à la fin, t'avais plus des moignons
d'ongles.
J'avais des ongles
complètement, tout le dessus quoi, des ongles, il était détruit.
C'est ça, quoi.
Ouais.
On est sur un sujet assez léger, le ton est plutôt joyeux. Est-ce que pour votre fille, ça s'est passé aussi simplement que ça, qu'une discussion sur des faux ongles?
Oui, ça a été assez...
J'ai bien aimé le oui.
Non, ça a été assez simple avec notre fille, bien sûr, parce qu'elle avait à l'époque 9 ans, je pense. Et pour elle, c'était l'arrivée d'une nouvelle personne pour aller faire des courses, voilà. Donc c'était plutôt... Et puis je pense qu'à 9 ans, on a une vision qui est très simple, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'a senti qu'on allait mieux. Ça a été un peu plus compliqué avec notre fils, bien sûr, qui avait 5 ans de plus.
Et qui est un garçon. Donc ça pose d'autres questions. Comment est-ce qu'il l'a vécu, Delphine, votre fils?
Il a eu du mal au début à l'accepter. Il avait beaucoup, enfin très peur du regard des autres, du regard des copains. Et puis c'est vrai qu'il s'est senti. Enfin, on lui a expliqué qu'on allait mieux, que la vie de famille était plus apaisée, donc qu'il fallait voir le bon côté des choses. Et puis je pense qu'il était rassuré par le fait que ses parents restent ensemble quand même.
Vous avez mis beaucoup de temps à le dire à vos parents.
Oui.
Pourquoi? Sachant que de votre côté à vous, Flo, il n'y a quasiment pas de famille. Donc là, la famille élargie, ce sont plutôt les parents de Delphine.
Parce que je savais qu'ils réagiraient mal. En même temps, ils n'ont rien vu, ils ne voyaient rien. C'était dingue. Je savais qu'ils savent... Enfin, je me disais, mais ils savent forcément, ils se rendent compte forcément. C'est pas possible autrement. Et en même temps, on n'en parlait pas.
Je pense juste qu'on a introduit une donnée qui était... en dehors de leur champ de, voilà, comment dire, mon possibilité. C'est-à-dire que leur programmation éducative, ils ont 30 ans de plus que nous, fait que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas intégrer parce que ça remettrait en cause tout leur logiciel. Quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité.
Et aujourd'hui, est-ce qu'ils ont légèrement amendé leur logiciel ou... Pas plus
en
que ça.
En vitrine, oui, je dirais que. Ouais. En vitrine, oui, mais je pense que ça fondamentalement, fait... ça n'a pas beaucoup bougé.
Quel impact est-ce que ça a eu sur votre musique, sur votre façon, parce que c'est l'autre grande partie de votre vie. Est-ce que ça a modifié des choses, dans votre façon d'en faire, dans votre façon de vous répartir peut-être aussi les rôles?
On était plutôt un duo, le mec chantait, la fille jouait de la guitare, donc c'était déjà un duo à l'envers, mais qui restait très binaire, quoi. Enfin, et donc là, on est rentré dans autre chose. Ouais. Toute ma vie, je pense que j'ai fait des textes sur ce sujet-là, sans le savoir, donc avec plein de voiles, comme ça, comme des rideaux de tulle, et puis là, on essaie de les retirer, quoi. Ouais. Voilà, le but, c'est qu'il n'y ait plus de rideaux.
Ouais. Et vous, Delphine, ça a changé quoi, pour vous, sur scène ou en studio?
J'ai eu l'impression d'avoir plus de place qu'avant.
C'est vrai?
Oui. De me dire que je peux enfin prendre une vraie place sur scène, alors qu'avant, j'étais toujours un peu dans le rideau. Quoi. J'avais un peu peur de me mettre, de prendre la place. Donc,
je ne sais pas.
Il y a un rééquilibrage complet. Quoi. Dans Ni un ni une, le morceau qui clôt l'album, vous posez à nouveau une question. Qui je suis? Qui je vais devenir si je ne suis ni une femme cis ni un homme, Floé. Le fait est que le grand basculement que vous avez fait, c'est que vous êtes passé d'une catégorie dominante à une minorité, à une double minorité. Qu'est-ce que ça change pour vous dans le rapport, dans votre place en société, en fait, qui n'est plus la même?
C'est vrai que c'est inquiétant, surtout dans l'actualité, quoi qu'on vit, où il y a vraiment une remise en cause globale de cette possibilité de bouger entre les gens.
Et dans vos rapports avec les hommes cis, c'est-à-dire les hommes qui sont aujourd'hui restés dans le genre auquel ils ont été assignés à la naissance. Donc,
je représente une sorte de trou noir, quoi. C'est vrai que la plupart de mes interlocuteurs vont des fois avoir l'impression que je les invite, un peu comme dans les films d'horreur, quoi, aller chercher une bière au sous-sol en passant par la porte sous l'escalier et qu'on va peut-être pas remonter.
Il y a cette idée du monstre qui est présente d'ailleurs dans vos textes. Il y a eu la peur d'être monstrueuse. Est-ce qu'il y a le sentiment parfois d'être un monstre aux yeux des autres?
Oui, bien sûr, mais qui est là, quoi, toujours.
Ouais. Je le dis parce que vous l'écrivez.
Surtout quand on transitionne pas à 16 ans, quoi. Je veux dire, donc c'est quand même beaucoup plus problématique médicalement. Après, c'est plus facile aussi à mon âge parce que le regard des autres, je suis plus en train de me construire. Ouais. Enfin, je le suis d'une certaine façon, mais plus d'une autre. Donc, je peux supporter. Il est très très fréquent qu'on reçoivent des critiques, mais c'est plutôt des insultes ou des menaces, voilà, sur les réseaux sociaux, et ça nous affecte en fait très peu, quoi. Voilà, si j'avais 16 ans,
moi, si vous aviez 16 ans, ouais, je pense. Depuis le début de cette transition, il y a eu un premier album en forme de coming out, une photo de vous à l'intérieur de la pochette, Floé. Et aujourd'hui, c'est toute l'histoire que vous racontez dans ce nouvel album, La Reine Garçon, un pas de plus, elle est même 10 sur cette route qui est la vôtre.
En marge. Sur France Inter.
Alors, je vous vois sourire. Dites-nous tout, on est où là?
Je pense qu'on est en Grèce quelque part.
Ouais. On est sur une île. Je pense qu'on est sur une île grecque. Voilà, et on en a fait beaucoup.
Une petite terrasse, un petit ouzo.
Il y a même eu une sorte d'obsession île grecque que vous comprenez comment aujourd'hui?
Alors oui, c'est-à-dire qu'on est parti en vacances toute notre vie sur des îles, grecques ou autres, mais sur un grand nombre d'îles grecques, effectivement, et sans trop savoir pourquoi. C'est-à-dire que plutôt que d'aller visiter des musées dans une grande ville, où on s'est toujours retrouvé sur des petites îles.
Voilà. Et Delphine, aujourd'hui, vous savez pourquoi?
C'est une façon de...
Est-ce que c'est une façon de se couper du monde, de se dire on est seul au monde,
oui,
ou est-ce que c'est une façon de s'enfermer?
Non, je pense que c'était plus une idée d'une page vierge, de recommencer à zéro. Et je pense que, inconsciemment, sans le savoir, j'étais déjà en train de transitionner là, quoi. C'est-à-dire, je tentais de comprendre, voilà, sans y arriver, quoi. C'est ça qui est un petit peu...
Mais il y a aussi l'idée de tourner en rond, Delphine, non? Il y a quelque chose qui fait qu'on n'avance pas, c'est-à-dire qu'on tourne un peu comme à la maison de la radio, vous savez. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Moi, je suis sûre qu'il y a des morts dans les placards quelque part. Parce que
c'est comme le tigre dans le zoo.
Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, Delphine.
En même temps, c'est agréable de se dire qu'on fait le tour de tout. On voit, on peut voir tout ce qu'il y a à voir. Il y a rien d'autre qui nous échappe. Et moi, j'aime bien cette idée-là aussi.
En tout cas, vous avez fait le tour des îles. Hein. Peut-être que maintenant, ça va changer. Ce que vous me disiez en préparant cette émission, peut-être que vous tenterez la ville. Qui sait? Mais toujours avec lui, Beverly Glenn Copeland.
Welcome the spring, the summer rain, softly turn to sing again. Welcome the bud, the summer blue.
Repéré sur une série qu'on Netflix,
c'est vrai.
On savait pas qui c'était. Et
ouais.
Donc c'était
alors, qui
vraiment
c'est,
pour le son. Alors c'est un fantastique chanteur déjà. Il se trouve qu'il est trans, il est racisé. C'est un Américain qui s'est installé au Canada avec sa femme. Donc c'est un chanteur trans des années 70. qui a fait des disques donc de 1970 jusqu'à maintenant, dans une indifférence quoi, totale jusqu'en 2015. Donc à 75 ans, il a été redécouvert par la presse indé.
Ouais.
Il a fait ses premiers concerts à 75 ans.
Incroyable.
Et c'est magnifique, sa musique est magnifique. Voilà, c'est...
Cette chanson-là, c'est Ever New, c'est toujours cette idée, Delphine, d'une possibilité toujours de toujours recommencer.
Oui, bah ouais. C'est un peu ça. Chaque matin, une nouvelle vie peut s'offrir, quoi. Donc,
une sorte de transition perpétuelle.
Ouais, hein. C'est ça.
Ouais.
C'est un peu comme ça qu'on a vu notre disque. On se disait, il faut que ça ait les couleurs du matin. Après une nuit où il a pu se passer des choses un peu noires et tout ça, le matin s'éveille et le jour arrive. Et... Voilà, il peut se passer plein de trucs.
Super. Une transition perpétuelle, un chemin éternel, chemin sur lequel vous emporterez quoi avec vous, quoi qu'il arrive, l'une et l'autre.
On a choisi un objet qui est un petit peu caduc. Dans
donc chacune a choisi son objet, hein, je le passe.
Oui, d'accord, tout à fait.
Okay, d'accord.
Ça, c'est donc le vôtre, Chloé.
Oui.
Je pense qu'elle se décharge de toute responsabilité.
Entièrement sur moi. Donc, c'est un objet qui est un sextoy.
Ah, voilà.
Et donc, directement, comme il n'y a pas d'image.
Ok. Non, mais on a le son, c'est très bien.
C'est,
sortez-le.
C'est un outil qui permet un couple de se donner que du plaisir. C'est-à-dire que les deux extrémités sont utilisables. Une peut se mettre, rentrer dans la morphologie féminine, et l'autre ressemble étrangement à un sexe d'homme.
Okay.
Voilà. Et ça marche avec le courant électrique. Donc on a des modes...
J'adore cette émission.
Qui sont un peu différents.
Okay.
Voilà. Et c'est quelque chose qui a surgi dans notre vie à un moment délicat. J'ai arrêté d'être un mec, quoi. Voilà. Et donc c'est aussi ce qui se passe quand on prend des hormones de femme, quoi.
Mais
voilà.
Ça veut dire que donc tout est possible et que l'idée c'est de pas se mettre de barrière, quoi.
Oui, et aujourd'hui on ne s'en sert plus, on vit très bien sans. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Donc on l'a rangé dans une boîte et puis on ne le charge plus. Là voilà, on l'a.
Bon, la décharge est
exceptionnellement pour
oui, c'est ça. Bien sûr, ça a été chargé pour l'occasion, sinon c'est complètement déchargé.
Voilà. Et en plus, ce modèle est vendu par des gens que nous connaissons, qui sont des anciens professionnels de la musique. Voilà, qui
ont
trouvé...
Je les veux dans ce studio.
Un travail plus lucratif, probablement.
Delphine, votre objet à vous.
Moi, j'ai choisi une bague qui vient de Grèce et que j'affectionne. Bon, elle est toute simple, mais c'est un peu ma bague porte-bonheur.
Elle est effectivement très jolie, elle est dorée, je ne sais pas si elle est en or, mais elle est cuivrée. Et ce sont de petits disques, on va dire, soudés les uns aux autres. Je peux décrire ça comme ça, ou des petits soleils.
Oui.
On peut dire ça. C'est quoi l'histoire de cette bague?
Rien, c'était... On était sur une île grecque, et il y avait une bijoutière qui vendait des bijoux très jolis. On aimait bien y aller. Et on avait fantasmé le fait d'ouvrir une bijouterie sur une île grecque.
C'est vrai.
On s'est dit plus tard, c'est ça qu'on va faire.
Oui.
Voilà.
Oui,
et donc, qu'est-ce qu'on disait? Transition perpétuelle.
Transition perpétuelle. Bon, c'est pas fait encore. On sait pas encore si on y sera un jour, mais...
J'étais quand même en train de regarder si la bague avait la taille du sextoy. N'importe quoi. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête là.
Ça marche. Il faut des gros doigts quand même.
Ça ne passe pas. Delphine, Chloé, je vous rends votre bague et cet objet. Merci. Objet vibrant, on va dire ça comme ça. Merci de nous avoir accompagnés, mieux guidés dans cette balade en marge. Votre album La Reine Garçon vient tout juste de sortir et vous entamez votre tournée la semaine prochaine. Vous serez le 28 à Lyon, le 29 à Grenoble, le 10 avril à Lille. Beaucoup, beaucoup d'autres dates à venir, dont l'Archipel à Paris le 15 mai pour une release party.
Avec la projection du documentaire aussi ce soir.
C'est ça. En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.